Frères et sœurs, je ne sais pas si vous vous êtes jamais posé la question, mais comment se fait-il que l'action de l'Esprit-Saint fut si remarquable à la Pentecôte pour les apôtres et apparemment si ténue pour nous? Comment se fait-il que l'action de l'Esprit-Saint dans les apôtres soit si remarquable? Eux qui avaient peur sont remplis de force. Eux qui ne disaient rien proclament ouvertement la résurrection de Jésus. Ils se mettent à parler en d'autres langues. Tous ceux qui sont rassemblés les entendent parler des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Et alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, le don de l'Esprit-Saint qui s'était manifesté de façon si remarquable sur les apôtres, comment se fait-il qu'aujourd'hui le don de l'Esprit-Saint ne semble pas provoquer le même débordement de puissance? Alors on pourrait évoquer quelques hypothèses. La première, ce serait, est-ce que le don de l'Esprit-Saint, les siècles passants, serait devenu trop vieux? Un peu comme une bouteille de vin que l'on aurait gardée trop longtemps et dont le contenu finit par se gâter. C'est difficile pourtant de croire que Dieu a une date de péremption. Dieu est l'Éternel. Dieu est celui qui est toujours neuf. Alors s'il n'y a pas une date de péremption de l'Esprit-Saint, est-ce que ce serait parce que à la Pentecôte, il y avait une grâce particulière de ce jour pour marquer ce commencement, un peu comme on fait une fête exceptionnelle pour la pendaison de la crémaillère, mais cela n'a vocation à se produire qu'une seule fois. Alors, il se trouve que dans l'Écriture, on va avoir plusieurs manifestations de la puissance de l'Esprit-Saint. Donc, ce n'est pas seulement réservé à un seul jour. On voit comment l'Esprit-Saint descend sur les Samaritains dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, par l'imposition des mains de Pierre et de Jean. L'Esprit-Saint descend encore sur la maison, c'est-à-dire tous les habitants de la maison de Corneille, le centurion, c'est au chapitre 10 des Actes des Apôtres. L'Esprit-Saint descend encore en Actes 19 sur des hommes qui n'avaient reçu que le baptême de Jean le Baptiste. Et on nous dit que quand Paul leur eut imposé les mains, ils se mirent à prophétiser, à parler en langue. Donc, la force de l'Esprit-Saint n'est pas réservée à la seule étape initiale du jour de la Pentecôte. Alors, si le don de Dieu n'a pas varié, si l'Esprit-Saint c'est le même qui est donné aujourd'hui et c'est le même qui était donné autrefois, alors il est donc capable des mêmes œuvres merveilleuses, aujourd'hui comme autrefois. Et donc si le don est bien le même, la différence dans l'ampleur de la manifestation de l'Esprit-Saint n'est pas à chercher du côté de l'Esprit-Saint, mais est à chercher dans celui qui les reçoit. Voilà, c'est si, entre guillemets, le problème ne vient pas de l'Esprit-Saint lui-même, c'est que le problème vient de celui qui reçoit l'Esprit-Saint, vient des hommes qui reçoivent l'Esprit-Saint, vient de la disposition des hommes qui reçoivent l'Esprit-Saint. Si la manifestation de l'Esprit-Saint n'est pas aussi lumineuse, n'est pas aussi éclatante, n'est pas aussi puissante, ce n'est pas un défaut de l'Esprit-Saint, mais il faut creuser du côté de la disposition des hommes qui le reçoivent. En effet, il y a une distinction entre le don et la réception du don. Je vous donne un exemple. On peut vouloir me donner de l'eau. Eh bien, si je ne tends pas mon verre sous la cruche, ben l'eau se répandra par terre, quelle que soit l'abondance avec laquelle on la verse. Et Dieu peut répandre son Esprit-Saint en abondance, nous pouvons aussi ne pas être disposés à le recevoir. Ou bien, nous pouvons le recevoir sans l'utiliser. Je garde mon image du verre d'eau. Je peux tendre le verre, le remplir, mais si je ne bois pas, ben je ne serai pas désaltéré. Il a tout ce qu'il faut pour me désaltérer, mais je ne lui donne pas la possibilité d'exercer sur moi sa vertu. Eh bien, il en va de même avec le don de l'Esprit-Saint. En sacramentaire, pour parler de cette réalité, on utilise deux expressions latines, l'expression opus operatum et opus operantis. L'opus operatum, c'est l'action de Dieu, la grâce donnée. Voilà, si l'on a reçu validement un sacrement, Dieu a vraiment donné sa grâce, il ne l'a pas retenue, il n'en aura pas gardé la moitié sous prétexte que le ministre du sacrement ce jour-là, ou celui qui le recevait, avait une mauvaise tête. Néanmoins, ce don est reçu comme un cadeau, encore dans son paquet. Nous en sommes riches, parce que nous l'avons reçu, mais nous ne savons pas encore bien ce que nous possédons, parce que nous ne l'avons pas ouvert, nous ne l'avons pas déployé. Et c'est à ce niveau qu'intervient l'opus operantis, c'est-à-dire l'œuvre de l'homme. Pour que le sacrement du baptême, qui fait de nous le temple de l'Esprit-Saint, pour que le sacrement de la confirmation, qui nous donne l'esprit missionnaire, pour que ces sacrements agissent dans toute leur force, il faut la volonté du côté de l'homme d'être disciple de Jésus. Et il faut encore du côté de l'homme une foi priante, sans quoi le sacrement demeure lié, empêché d'agir. Un peu, je reprends l'image du cadeau, le cadeau qui n'a pas été déballé, qui n'a pas été ouvert. On a un petit passage dans les évangiles qui est très éclairant à ce sujet. C'est ce qui s'est passé avec Jésus dans la ville de Nazareth. Autant on nous dit que Jésus fit de nombreux miracles à Capharnaüm, à Chorazène et à d'autres villes de la Galilée, autant on nous dit spécifiquement à Nazareth, Jésus ne put faire beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. C'est en Matthieu 13, au verset 58, Jésus ne put faire beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. Voilà, c'est la volonté de Jésus d'apporter sa grâce était là, la capacité, la puissance de Jésus de répandre la grâce était là, mais la disposition des hommes n'avait pas permis que cette grâce donnât toute son ampleur. Alors quand on a pris conscience de cela, conscience que pour que l'action de l'Esprit-Saint se déploie pleinement dans notre vie, il y a une disposition particulière que nous devons avoir pour lui donner de pouvoir répandre sa force, cela implique que nous creusions notre désir de l'Esprit-Saint. Cela implique que nous développions notre volonté de le voir illuminer notre existence. Il y a un acte de la volonté, il y a un engagement personnel et persévérant pour désirer, pour vouloir, pour demander que l'Esprit-Saint déploie son action dans ma vie. Or, peut-être que nous nous rendons compte que ce n'est pas vraiment quelque chose que nous demandons. Est-ce que vous vous êtes levé ce matin en vous disant, Esprit-Saint remplit ma vie, Esprit-Saint, je t'ouvre les portes de mon cœur, je t'ouvre les portes de ma volonté, je t'ouvre les portes de mon corps, pour que ta puissance se répande en moi, et que ta puissance puisse se manifester et se déployer pleinement. Je ne veux pas rester fermé sur moi-même. Esprit-Saint, viens en ma vie, je t'ouvre toutes les portes, je t'ouvre ma liberté. Eh bien, cet engagement, nous pouvons commencer à le vivre à un moment plus particulier. Un moment plus particulier d'intimité avec l'Esprit-Saint, qui est le moment où nous venons de communier. La prière eucharistique numéro 3, que nous allons entendre dans quelques instants, nous dit ceci, « Quand nous serons nourris du corps et du sang du Christ et remplis de l'Esprit-Saint. » Vous avez entendu, nous serons nourris du corps et du sang du Christ, et à ce moment-là, nous serons remplis de l'Esprit-Saint. C'est donc qu'à ce moment, nous serons visités tout particulièrement par l'Esprit-Saint. C'est donc un moment privilégié pour l'accueillir en nous. C'est donc un moment privilégié pour lui ouvrir notre vie, pour le laisser baigner notre vie, et pour ne pas être, vous savez que j'aime bien cette expression, des passoires de la grâce. La grâce se donne, mais nous n'en recueillons pas grand-chose, nous laissons comme une passoire passer cette grâce sans en retenir grand-chose. Alors comment faire lorsque nous venons de communier? pour demander à l'Esprit-Saint de remplir tout notre être. En fait, ce n'est pas compliqué à faire. Il s'agit simplement d'oser lui parler, d'oser s'adresser à lui pour lui ouvrir les portes de notre vie. Vous pouvez le faire par ces mots ou d'autres semblables. Esprit-Saint, toi qui me remplis en cette communion, descends dans ma mémoire, descends dans mon imagination, parce que des paroles, des images m'ont blessé ou m'obsèdent. Viens habiter le lien entre mon corps et mon âme, car mon corps est comme un cheval non dressé qui se cabre. Il va dans toutes les directions, et mon esprit est un peu paresseux. Il ne veut pas persévérer dans cette éducation du corps, prendre les rênes de ce corps pour bien le conduire. Viens, Esprit Saint, dans mon écoute, viens dans mes oreilles, parce que je n'aime plus entendre la volonté du Père, parce que j'ai l'impression qu'elle ne me conduit pas à mon bonheur, que c'est trop difficile. Viens, Esprit Saint, dans mon écoute, dans mes oreilles. Ou bien encore, viens, Esprit Saint, dans mon regard sur mon collègue, parce que quand je le regarde, j'ai juste envie de le taper, et je ne rate pas une occasion de médire à son sujet quand il a le dos tourné. On peut même parler très concrètement. Viens toucher, Esprit Saint, mon estomac plein d'acidité, tant je suis amer et inquiet de cette relation. Viens toucher mon estomac plein d'acidité, tant je suis amer. Viens, que je puisse demeurer fidèle dans cette relation. Ou bien encore, viens dans mes mains, Esprit Saint, mes mains qui sont violentes ou impures, qu'elles apprennent à servir et à offrir. Et ce genre de prière, qu'on n'est pas forcé de dire à haute voix, mais que l'on peut poursuivre chez soi dans un coin plus à l'écart, on peut prier aussi à haute voix ainsi, et très concrètement, nous ouvrons notre être, dans son esprit, dans son corps, dans le lien du corps, de l'esprit et de l'âme, à l'action de l'Esprit Saint. Eh bien, cette ouverture de notre être à l'action de l'Esprit Saint que nous recevons est transformante. Elle est transformante dans le temps. Elle est transformante dans la persévérance. Et je vous souhaite de le découvrir, je vous souhaite d'oser entrer dans cette prière avec persévérance, parce que vous verrez votre vie s'illuminer petit à petit. Il y a des choses qui se mettront en place, qui seront restaurées. Eh bien, frères et sœurs, prenons le soin de ne pas laisser passer ce moment tout particulier après la communion. C'est vrai, c'est un effort de ne pas penser à ce que nous allons faire après la messe alors qu'elle touche à sa fin. C'est vrai, c'est un effort de ne pas se laisser distraire par ce qui se passe autour de nous. Mais si nous prenons cette habitude avec persévérance de nous ouvrir à l'action de l'Esprit Saint, de nous disposer à son action en nous, de lui ouvrir les portes de notre liberté, nous donnerons à la rencontre de l'œuvre de Dieu et de l'œuvre de l'homme en réponse de se réaliser pleinement. Alors nous verrons des fruits semblables à ceux que les apôtres et les premiers missionnaires ont déployés, car c'est toujours le même esprit qui est à l'œuvre. Alors, nous aussi, nous proclamerons les merveilles de Dieu comme les apôtres dans une langue qui sera comprise par ceux qui nous entourent. Amen.